Et par actualité.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Par Actualités du 19 décembre 2017. En manchette aujourd'hui, aide sociale, les médecins s'attendent à subir des pressions. Des jeunes avec une déficience intellectuelle s'initient à la planche à neige. Et le périple exceptionnel de Marine Barnérias, atteinte de sclérose en plaques. Mes invités aujourd'hui, Manon Boisvert, directrice générale du service spécialisé de main-d'œuvre Essor 2, et Gaëlle Ouellette, conseillère en génétique, présidente et directrice générale du Regroupement québécois des maladies orphelines. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Aide sociale, les médecins s'attendent à subir des pressions, une nouvelle tirée du Devoir. La réforme de l'aide sociale qui prévoit une hausse de revenus pour les prestataires ayant une contrainte sévère à l'emploi, CSE, pourrait entraîner une augmentation des demandes d'évaluation médicale. Une situation jugée inconfortable par des médecins qui craignent de subir des pressions de la part de patients pour établir un diagnostic reconnaissant une CSE, contrainte sévère à l'emploi. L'évaluation d'une contrainte sévère à l'emploi aura plus que jamais un impact sur la qualité de vie des prestataires de l'aide sociale, puisque le nouveau plan de lutte contre la pauvreté de Québec garantit un revenu de base égalant la mesure du panier de consommation aux personnes ayant une CSE. Cette mesure devrait mettre davantage de pression sur les médecins à qui incombe l'évaluation de l'employabilité des prestataires. La mesure phare du plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale, présentée en grande pompe la semaine dernière, touche les prestataires de la solidarité sociale qui ont une CSE depuis au moins 5 ans et demi. Ces derniers verront leur revenu annuel atteindre 18 029 $ en 2023, soit près du double de celui auquel auront droit les prestataires de l'aide de dernier recours, qui n'ont pas de contraintes à l'emploi et recevront 9 929 $ par année. Cet écart important entre les revenus des prestataires risque d'accroître le nombre de demandes médicales visant à faire reconnaître une CSE. Selon le directeur du Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations, Christopher McCall, les médecins éprouvaient déjà un malaise à devoir juger de l'employabilité des prestataires de l'aide sociale. L'écart grandissant entre les revenus des prestataires accentuera ce malaise étant donné l'impact plus important qu'aura cette certification sur leur qualité de vie. Dire à une personne qu'elle n'aura pas le droit à une contrainte sévère, ça peut signifier de lui dire de rester dans la rue. Dans le lézard.com, boîte de dons caritative, assez c'est assez. Depuis plusieurs années, des entrepreneurs privés ont inondé les municipalités de boîtes de récupération de vêtements. Cette situation a forcé les municipalités à réglementer la présence des boîtes sur leur territoire. Les organisations légitimes se sont conformées à la nouvelle situation et elles ont perdu beaucoup, tellement perdu que la situation met en péril leur mission sociale. Pendant ce temps, les entrepreneurs privés continuent d'opérer en contravention avec les règlements municipaux sans que les municipalités ne fassent appliquer leur réglementation. Deux poids, deux mesures, avez-vous dit? Parfaitement. Cette concurrence déloyale doit cesser. Les municipalités doivent intervenir et faire respecter leur règlement afin que tous aient une chance égale. Nous ne pouvons plus tolérer que de nombreuses municipalités de la région de Montréal fassent preuve d'autant de laxisme envers des entrepreneurs privés. Nos organismes perdent énormément et ce sont les citoyens que nous aidons qui sont pénalisés alors que les concurrents ne remettent pas un sou à la communauté, de dire le directeur général de la Fondation Le Support, M. Philippe Cibès. Tolérer des boîtes non conformes aux règlements municipaux équivaut à favoriser des entrepreneurs privés aux dépens d'organismes de charité légitimes. Et je joins maintenant Manon Boisvert, directrice générale du service spécialisé de main-d'œuvre Essor 2. Bonjour, Madame Boisvert.
Bonjour, Madame Denis.
Bienvenue à Canal M.
Merci.
Vous organisez le deuxième Salon de l'emploi dans la Naudière. Ça va se dérouler le 29 mars 2018 au complexe J.C. Perrault à Saint-Roch-Lachigan. À qui s'adresse-t-il, ce salon?
C'est un salon qui s'adresse précisément là, pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles.
Okay.
Donc, ça peut être des personnes qui ont des limitations physiques, des troubles de santé mentale ou intellectuelle.
Mm-hmm. Et quels employeurs seront présents à ce salon?
Jusqu'à maintenant, là, on est toujours en recrutement là, d'employeurs pour tenir des kiosques.
Oui.
Mais jusqu'à maintenant, on a des belles entreprises de la région, mais aussi qui sont établies partout au Québec, dont le groupe Arnois. On a Axia Service, les deux commissions scolaires de notre territoire, là, commission scolaire des Samars, des Affluents, Inspecteur Canin, Benny et compagnie du nord de la Naudière, le groupe Patrick Morin, Firestone, Bridgestone, ABC Environnement, Crabtree, Olimel, Saint-Esprit et DFS Sunfright System.
Est-ce qu'il vous reste
Arbeck.
Pardon?
Le groupe Arbeck. Également.
D'accord. Est-ce qu'il vous reste encore de la place? Vous dites que oui, là, si les gens sont intéressés à participer au Salon de l'emploi et qu'ils veulent avoir un stand, comment font-ils pour vous contacter?
Ils peuvent nous appeler au service spécialisé de main-d'œuvre au 450-755-3855. Et m'appeler directement Manon Boisvert, là, au poste.
D'accord.
202.
Est-ce que vous avez une limite? J'imagine que oui.
On a une limite qui n'est pas si... on pourrait avoir jusqu'à une cinquantaine de kiosques.
Ouais.
On en vise minimalement 25.
Mm-hmm.
Mais étant donné qu'on va être au complexe...
J.C.
Perrault, qui est un aréna, en fait, qui est assez grande. Donc, on a la possibilité là, d'avoir beaucoup de kiosques.
Bon, et combien de participants attendez-vous?
On espère en avoir au moins 250, mais l'objectif était 400, mais au moins 150, là, dont les étudiants là, qui ont des limitations fonctionnelles des commissions scolaires, justement, sur notre territoire.
Est-ce que ça va se dérouler sur une journée complète?
Oui, bien, en fait, ça va être en après-midi à partir de 13h30 là, pour les participants. Et puis, ça va être ouvert jusqu'à 20h le soir. Oui.
Et il y a le chanteur Martin Deschamps qui fera deux conférences. Sur quel thème?
Oui, son thème, ça va être sur les limitations, justement. La conférence, exactement, j'ai
le... Oui, vous avez le titre tout près de vous.
Oui, je m'excuse. La différence. C'est la différence.
Oui. Est-ce que c'est un habitué des conférences, Martin Deschamps? C'est la première fois que j'entends dire qu'il fait des conférences.
Je crois que c'est un habitué. Nous, on l'avait retenu aussi pour notre salon en 2014.
Mm-hmm.
Et puis, il avait été très apprécié là, des
participants. Oui.
C'était un des points forts. Là. Et les jeunes, entre autres, avaient mentionné là, que ça les avait beaucoup motivés à poursuivre leurs études, à avancer. De voir son cheminement à lui et qu'il réussisse actuellement.
Oui.
Pour eux, là, c'est un beau modèle de réussite.
C'est vrai, hein? C'est quelqu'un de sympathique, authentique, qui respire la joie de vivre aussi.
Oui, exactement.
Et il y a Claudia Nigrelli, présidente d'honneur, conférencière, qui va présentant des limitations visuelles. Elle va donner donc une conférence sur un témoignage?
Probablement un témoignage, mais comme vous le dites, là, c'est notre présidente d'honneur, donc elle va être là sur place là, pour l'ouverture du salon et sûrement rencontrer les employeurs et les participants.
Est-ce que c'est quelqu'un
les aider à se motiver également.
Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui habite la région de la Naudière?
Sa famille habite dans la région de la Naudière. Elle est assez présente. On la voit, par exemple, elle fait partie là, des femmes d'action la Naudière. On la voit, elle est venue faire une conférence là. Elle est assez active et elle travaille donc avec ses limitations. Donc, c'est une belle aussi, c'est un beau modèle. Elle a fait aussi une conférence dans un organisme là, de la région. Donc, oui, effectivement, c'est un beau modèle là, pour les personnes qui ont des limitations, pour dire de ne pas s'arrêter, de faire ce qu'ils ont envie, ce qu'ils aiment faire. Là.
Alors, pour les employeurs qui ont envie de participer à votre salon, combien doivent débourser?
C'est gratuit parce que le salon, autant pour les participants que les employeurs, le salon est financé par, entre autres, là, on a des ententes avec la Direction régionale de services Québec, la Nodière, et l'Office des personnes handicapées du Québec. Donc, il est financé au complet par ces deux organismes-là. Nous, on est un bailleur de promoteur du projet, mais on travaille en collaboration avec différents partenaires de notre région qui proviennent d'ailleurs du réseau de la santé et de la commission scolaire.
Une raison de plus d'y participer. Si on veut avoir des informations, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou une adresse courriel?
Oui, vous pouvez appeler au 450-755-3855.
Alors, 450-755-3855
Parfait. Au service spécialisé de main-d'œuvre SR2.
D'accord. Donc, le deuxième salon de l'emploi dans la Naudière, ça se déroule le 29 mars 2018. Je rappelle que c'est au complexe J.C. Perrault à Saint-Roch-la-Chigan. Manon Boisvert. Oui?
Pardon, il faut préciser que c'est le deuxième pour les personnes qui ont des limitations, parce qu'il y a quand même différents salons de l'emploi qui existent dans la Naudière, mais c'est vraiment le deuxième pour les personnes qui ont des limitations.
D'accord. Merci pour cette précision. Manon Boisvert, directrice générale du service spécialisé de main-d'œuvre SR2, ben, bonne année 2018, puis bon salon.
Merci, vous pareillement, et joyeuses fêtes.
Ben, merci beaucoup, vous aussi.
Au revoir.
Des jeunes avec une déficience intellectuelle s'initient à la planche à neige. C'est sur le site de Radio-Canada. Les jeunes élèves avec une déficience intellectuelle ou un retard de développement de l'école André Gagnon de Saguenay participent à un programme d'initiation à la planche à neige pour une troisième année. L'objectif, se rendre sur les pentes cet hiver. Des enfants qui vivent avec la trisomie 21, une déficience intellectuelle ou un retard d'apprentissage s'amusent sur les trampolines, les matelas et dans le bac de mousse du nouveau Centre d'entraînement intérieur en équilibre de Saguenay. Ce centre permet de faciliter le travail de motricité des apprentis planchistes, explique l'entraîneur Mathieu Laprise-Tremblay. Ce qu'on travaille ici, c'est beaucoup l'équilibre, l'impulsion et la prise de décision qui sont difficiles à travailler en gymnase en temps normal. Les jeunes vont réaliser cette année près d'une trentaine de sorties, affirme Audrey Charbonneau, enseignante en réadaptation scolaire à l'école André Gagnon. 28 cours de snow, de planche, de skate, de trampoline. On va développer plusieurs aspects, consolider les acquis, donc oui, ça a évolué, puis on y va au rythme de chacun. L'objectif ultime du programme demeure une sortie sur les pentes en fin de saison. Toutefois, les parents constatent les bénéfices de l'activité sur la santé générale de leur enfant. Du bonheur, de la stabilité aussi à l'école parce que Roby, il a une déficience, explique la mère d'un des élèves. Ça va super bien, il aime ça jouer dans la neige, faire du snow, il adore ça, alors on continue là-dedans. Des donateurs assurent le financement du projet et le nombre de participants demeure stable depuis 3 ans. Dans la tribune, de moins en moins de soutien à domicile. Le nombre d'usagers desservis et le nombre d'interventions en soutien à domicile, SAD, ne cesse de diminuer au CIU 3S de l'Estrie-CHUS depuis avril 2015, en dépit des investissements supplémentaires alloués en Estrie, indiquent des gestionnaires dans une note de service dont la tribune a obtenu copie. Les services de soutien à domicile représentent pourtant une priorité pour l'organisation du CIU 3S de l'Estrie-CHUS, alors que ces lits d'hôpitaux et de CHSLD subissent une pression sans précédent depuis bientôt un an. Dans l'objectif de permettre au plus grand nombre de personnes de demeurer à la maison le plus longtemps possible, le personnel du CIU 3S prend actuellement les bouchées doubles afin d'atteindre les cibles fixées par le ministère. Et les bouchées sont difficiles à avaler pour un personnel trop peu nombreux et surchargé, et qui doit faire face à une clientèle de plus en plus lourde, nécessitant plus de temps lors de chaque intervention, dénonce le syndicat de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Avant de continuer, une question s'impose. Qu'est-ce que sont exactement les services de soutien à domicile, SAD? Ce sont les services quand notre personnel se rend chez un usager pour lui offrir des services, que ce soit des infirmières, des ergothérapeutes ou des services d'aide à la personne, comme pour les soins d'hygiène ou de l'aide au repas, par exemple, explique Maryse Trudeau, directrice adjointe au programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées au CIU 3S de l'Estrie-CHUS. Sur le grand territoire du CIU3S de l'Estrichus, 8 725 citoyens bénéficient de visites à domicile. Ils sont plus de 1000 sur la liste d'attente, mais ils sont surtout répartis dans les milieux urbains que représentent Sherbrooke et Granby. Et je parle maintenant avec Gaëlle Ouellette, conseillère en génétique, présidente et directrice générale du regroupement québécois des maladies orphelines. Bonjour, Madame Ouellette.
Bonjour.
L'heure est au bilan. S'il y avait une nouvelle à retenir cette année en ce qui concerne les maladies rares au Québec, quelle serait-elle? J'espère qu'elle est bonne.
Oui, on a eu une bonne nouvelle. Pour la première fois durant l'été, on a pu rencontrer le docteur Gaétan Barrette, ministre de la Santé, donc des membres de notre conseil d'administration qui sont soit des parents ou des adultes atteints de maladie, l'ont rencontré. La bonne nouvelle, c'est que enfin il y aura la mise sur pied d'un comité pour étudier une stratégie québécoise pour les maladies rares.
Ça faisait longtemps que vous espériez cette mise sur pied de ce comité.
Bien oui, là, ça va faire 8 ans qu'on existe. Dès la première année, on avait pu rencontrer le docteur Bolduc qui avait en 2011 annoncé ce comité, mais ça n'avait pas vu le jour pour différentes raisons. Alors après, il fallait un peu recommencer le travail. Oui. Et puis maintenant, ben, on a eu un résultat, ce qui est très encourageant.
Après 8 ans, vaut mieux tard que jamais. Madame Ouellette, quelle va être la mission de ce comité?
Par contre, on n'a pas encore beaucoup de détails. Vous savez, c'est toujours des petits pas. Alors, on sait que le dossier est au ministère et puis qu'il regarde justement comment on peut travailler là, la composition du comité, qu'est-ce qu'il va faire le mandat. Mais nous, on a quand même pris les devants là, pour leur indiquer que nous avons certains médecins collaborateurs dans le domaine de maladies rares qui pourraient siéger, qui ont accepté même siéger sur ce comité-là. On voudrait être représentés, les associations de patients aussi. Et à l'interne, nous, on a mis sur pied un comité stratégie maladies rares. Donc, il y a déjà des représentants d'associations, membres chez nous et aussi des membres individuels qui se sont réunis déjà pour parler de ce qu'on pourrait faire avec ce comité. Alors, on devrait avoir des nouvelles début de 2018.
Ah, ça s'en vient quand même.
Ah oui, oui.
Et vous dites que vous connaissez déjà des personnes qui vont siéger à ce comité. Est-ce que vous allez siéger vous-même?
Bien, c'est des médecins là, qu'on propose, qui seront acceptés par le ministère, et puis on verra les propositions du ministère. Moi-même, en fait, non, parce que même si j'ai géré tout ça depuis 8 ans, ben je laisse ça à un membre de notre conseil d'administration qui va siéger au nom du regroupement québécois des maladies orphelines, puis il y aura probablement d'autres représentants d'associations. Ouais. Patients aussi.
Et qu'est-ce que ça va apporter aux malades et à leurs familles, ce comité?
Bien, écoutez, nous, ça fait 7 ans qu'on travaille là-dessus. Mm-hmm. On a fait un forum, un sommet des maladies rares en 2015. On a une quarantaine de propositions déjà préparées suite à tous ces échanges et discussions. Et c'est divisé en systèmes, en fait. Là, on veut trouver des solutions pour l'information, l'éducation, la formation des médecins, des autres professionnels de la santé par rapport aux maladies rares. La prévention, le diagnostic, la prise en charge, le traitement, la recherche et les aspects psychosociaux. Alors, on a une quarantaine de propositions là, qui touchent à tous ces thèmes-là.
Vaste programme.
Oui, ouais. Assez vaste, oui.
Mais avant que le comité existe, vous dites que ça fait 7-8 ans que vous vous battez là, pour que ça soit mis sur pied, mais avant cela, comment ça fonctionnait?
Ben en fait, je pense qu'avant notre existence, on parlait des maladies orphelines au Québec. On faisait surtout référence aux maladies spécifiques et fréquentes au Québec, là, surtout dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui ont, eux, avancé aussi leur dossier pour ces maladies-là. Mais donc, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, nous, on voit que notre regroupement a réussi à sensibiliser parce qu'on entend beaucoup plus parler des maladies rares et orphelines. Côté recherche, on trouve c'est positif qu'il y a plus de chercheurs qui s'y intéressent, il y a plus de projets. Mais côté clinique, là, c'est-à-dire réduire les longs délais diagnostiques, que les familles aient plus d'informations, que les médecins sachent où aller pour bien prendre en charge, que puis les services psychosociaux, les familles ont de la difficulté, des adultes entre autres, à avoir du soutien, de l'aide financière.
C'est le cas de le dire, vous sentez souvent orphelin ou orpheline.
Oui, c'est justement pourquoi on appelle, hein, la plupart des maladies rares sont orphelines. Mm-hmm. Au départ, la définition, ça voulait dire pas de traitement.
Oui.
Mais c'est plus large que ça, hein. Des fois, c'est aussi difficile de prendre en compte la rareté dans notre système de santé à bien des niveaux. Donc, c'est plus que juste le manque de traitement. Mm-hmm.
Et en terminant, Mme Ouellette, quel bilan de l'année faites-vous au sein du Regroupement québécois des maladies orphelines?
Bien, il y a aussi notre centre d'information et de ressources en maladies rares là, qui fonctionne toujours et dont on est fiers. Et puis, les gens nous contactent par courriel ou par téléphone pour des demandes d'informations sur n'importe quelle des milliers de maladies, puis du soutien. Puis ça augmente ces demandes-là d'année en année. On a répondu à plus de 600 cette année.
Oh, bravo! Est-ce que c'est un record?
On est content. Ouais. On a un intervenant qui est là aussi pour les écouter, pour les référer, mm-hmm. pour leur donner l'information qui est professionnelle, à jour, et ça, on en est fiers.
Alors, si on veut vous joindre, vous êtes à Sherbrooke, hein?
Non, c'est que moi, je suis à Sherbrooke, c'est là que je réside.
Oui.
Mais notre organisme est provincial avec un bureau à Montréal.
D'accord.
Sur notre site Internet, là, rqmo.org, un numéro de Montréal, un numéro sans frais pour toute la province et puis le courriel et tout.
Parfait. Un grand merci, Gaëlle Ouellette, conseillère en génétique, présidente et directrice générale du Regroupement québécois des maladies orphelines. Je pense que vous allez passer un beau temps des fêtes.
Oui, puis merci à vous et passez un beau temps des fêtes, vous aussi,
merci.
Toute l'équipe.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Dans le Figaro.fr, le périple exceptionnel de Marine Barnérias, atteinte de sclérose en plaques. L'aventure pour se découvrir et se renforcer, c'est le parcours stupéfiant de cette étudiante pleine de vie, à qui on a diagnostiqué à l'âge de 21 ans une terrible maladie. Passé le choc, elle a décidé de ne pas se laisser abattre et de partir sur les chemins du monde. Son témoignage est une leçon de vie. Cette invitée n'est pas tout à fait comme les autres sur le plateau du Figaro Live pour l'émission mensuelle Terminal F qui accueille ce vendredi-là des aventuriers. Marine Barnérias, belle et pétillante jeune étudiante de 24 ans, est venue raconter une expérience de voyage liée à sa maladie. Elle est atteinte de sclérose en plaques, le diagnostic est tombé l'année de ses 21 ans. Pour retrouver mon corps, j'ai traversé la Nouvelle-Zélande à pied et en autostop, puis en Birmanie pour découvrir mon esprit. Après, je suis allée explorer mon âme à travers les steppes de Mongolie, témoigne-t-elle, solaire. Sur le plateau, le silence se fait. Personne n'interrompt le témoignage exceptionnel de cette volontaire qui ne veut rien céder à une maladie qui peut se réveiller à tout instant. Marine Barnérias dit retenir de son périple une unité universelle entre le corps et la pensée, dont elle ne se doutait pas avant de partir. La nature extrême permet de nous unifier pour mieux créer, mieux entreprendre et mieux décider, a-t-elle compris. Elle a rebaptisé sa sclérose « rose » pour les épines de la maladie, a raconté son expérience dans un livre « Super héros », aux éditions Flammarion, du nom de son projet lancé sur Facebook qui commence par les trois premières lettres SEP pour sclérose en plaques. Sur l'entreprise.lexpress.fr, vainqueur du Grand Prix de l'innovation de la Ville de Paris catégorie urbain, mobile et connecté, Just Beep résout à peu de frais les obstacles urbains à la mobilité. C'est en partie en pensant à son père en fauteuil roulant que Romain Streff a lancé sa start-up Just Beep, primée dans la catégorie urbain, mobile et connecté du Grand Prix de l'innovation de la Ville de Paris ce 12 décembre 2017. Ces services à destination des personnes à mobilité réduite destinés à faciliter leur quotidien en ville ont séduit le jury. Just Beep est un service gratuit permettant de rendre la ville accessible à tous. Les personnes à mobilité réduite qui arrivent dans un lieu équipé du service Just Beep peuvent demander une assistance depuis leur téléphone portable. L'application les géolocalise et les mettent en relation avec le commerçant qui devance alors leurs besoins. Concrètement, ainsi prévenu, un employé tient la porte bien trop lourde ou met en place la rampe d'accès. Le pompiste fait le plein en 3 minutes au lieu des 20 minutes nécessaires pour sortir le fauteuil du véhicule et prendre de l'essence. Un agent de la gare ou de l'aéroport accueille la personne handicapée à l'extérieur du bâtiment et l'accompagne au service demandé, qui ne se trouve souvent qu'une fois sur le quai ou dans le hall d'embarquement. 1200 commerces en France, le double prévu en 2018, ont déjà souscrit à ce service moyennant un abonnement mensuel de 10 euros. Plus de 16 000 usagers ont déjà été conquis par ce service qui va s'étendre à l'Europe, Allemagne, Belgique, Suisse et ambitionne de devenir le leader de la solution d'accessibilité. Et en terminant, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, le RAM, vous informe que ses bureaux seront fermés à l'occasion du congé des fêtes, soit du 22 décembre 2017 à 16h30 jusqu'au 7 janvier 2018. Nous serons de retour lundi 8 janvier dès 8h30. L'équipe du RAM et le conseil d'administration joignent leurs voix pour vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'émission Les Parts Actualités, édition du 19 décembre 2017. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Merci à mes invités, Manon Boisvert, directrice générale du service spécialisé de main-d'œuvre SOR 2, et Gaëlle Ouellette, conseillère en génétique, présidente et directrice générale du regroupement québécois des maladies orphelines. Ici Hélène Denis, je vous souhaite une agréable journée. Je vous retrouve demain. À bientôt.